revenir à tous et à toutes. J'espère que vous êtes en forme ce matin, que j'ai l'intention de vous faire participer. J'ai réservé quelques questions et on va voir si vous êtes bien attentif à ce qu'on va partager ce matin. La première question est une belle question. Est-ce que tout le monde a déjà dégarni et démonté son sapin?
Oui.
Oui? Bon, ben on est les seuls alors. Non, mais on a laissé le sapin, c'est une question fonctionnelle. C'est qu'on n'a pas encore nos stores et nos peintures, donc on nous protège un peu. On l'a mis devant une grande porte-fenêtre. Bon, ici, il nous sert. Donc, on va attendre qu'il tombe en épine et puis on aspirera. Alors, si je vous pose cette question-là, c'est parce que j'ai envie de vous proposer de parler d'un sujet qui clôture généralement le cycle de la fête de Noël. Hein, on le commence avec, en allumant la première bougie, généralement le dernier dimanche du mois de novembre. Et ce cycle-là se termine, c'était la semaine dernière, avec l'épiphanie. Et donc, je vous invite à lire le deuxième chapitre de Matthieu. Et pendant que vous prenez ce chapitre, je ne sais pas si la tradition est encore respectée aujourd'hui. Qui a mangé de la galette des rois la semaine dernière? Oui, oui, pas beaucoup. Alors, je vous posais la question, qui a été roi ou reine? Alors, beaucoup les rois et les reines. Voilà, on les applaudit. Alors, je dois vous dire que moi aussi, j'ai été roi, mais je n'ai pas de mérite parce que, en fait, il restait un morceau que personne n'avait mangé et je l'ai mangé le lendemain. Et voilà, comme personne n'avait eu la fève le jour même, mais j'ai été roi et j'ai porté la couronne tout seul dans ma cuisine. Voilà. Alors, nous allons lire le deuxième chapitre de Matthieu. C'est une histoire qui a fait marcher beaucoup d'imagination, qui a fait couler beaucoup d'encre, non seulement l'encre de certains écrivains de l'Antiquité, mais également l'encre de peintres, à un point tel qu'on se demande aujourd'hui parfois où est le vrai du faux, où est la véritable histoire par rapport à ce que les gens se sont imaginés. Et je vous demanderai d'être attentif à cette lecture parce que, comme je vous l'ai annoncé, je vous poserai des questions juste après. Donc, nous lisons Matthieu chapitre 2, au verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été dit par le prophète, et c'est Michée qui dit ça au chapitre 5, que toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fut appelé en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Ricanement de Hérode. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voilà, voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, Voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit en grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enfui auprès des mages. Arrêtons la lecture ici. Alors, question. Donc, celui qui veut répondre, met sa main. Dans cette histoire, combien y a-t-il de rois mages? Oui.
3.
Ah, d'accord. Le piège. Le piège. Est-ce que le nombre est précisé?
Non.
Alors, le 3, Régine, c'est une coutume qui s'est installée au fil des siècles, parce qu'en en fait, il y a 3 cadeaux. D'accord? Et quels sont ces 3 cadeaux? L'or, l'encens et la myrrhe. Et donc, au fil du temps, les gens ont imaginé qu'ils étaient 3. Et il y avait un deuxième piège dans ma question. Je posais la question, combien de rois mages y a-t-il? Et il n'y en a pas. Parce qu'il n'est pas dit qu'il s'agit de rois. On parle de mages. Et là, de nouveau, c'est une tradition qui s'est installée au fil des siècles. Et le fait de les représenter à 3, on a dit son tueur, à d'autres chameaux, et leur donner les prénoms sympathiques de Gaspard, Melchior, Balthazar, c'est le fruit de l'imaginaire au fil des siècles. Et donc, le récit biblique ici nous donne la véritable histoire, et il est intéressant de constater que l'archéologie et d'autres sources historiques de l'époque confirment ce récit biblique. Et notamment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Flavius Josèphe, qui est un historien du 1er siècle, il écrit les mémoires des Romains, etc. Et il écrit ceci dans un de ses livres, « Des sages venus d'Orient visitent Hérode. L'étoile leur est apparue et signifie la naissance d'un roi qui dominera sur l'univers. L'étoile les conduit à Jérusalem, mais disparaît. Hérode leur recommande de lui indiquer qui est la personne désignée par l'étoile. Mais les Perses ne reviennent pas. Et Hérode fait massacrer 63 000 enfants de moins de 2 ans. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres écrits historiques qui confirment le récit biblique. Toujours est-il, c'est que cette histoire, elle nous secoue. Elle nous perturbe dans nos traditions. Et en fin de compte, elle nous montre cette histoire que les premières personnes qui vont approcher Jésus ne sont pas spécialement les personnes auxquelles on aurait pu penser dans un premier temps. Dans cette scène, il y a 3 catégories de personnages, nous venons de lire. Il y a Hérode, il y a les juifs religieux, et puis il y a les mages. Alors, Hérode, pour commencer, il incarne le pouvoir politique et économique. Hérode, c'est le roi, mais un roi qui a été établi par des hommes, par les Romains. Un roi aux dents longues, reconnu pour sa cruauté. Un roi qui n'hésite pas à faire assassiner plusieurs membres de sa famille, femmes et enfants, pour affermir son pouvoir. Hérode, c'est lui aussi qui exclut les Juifs de toute forme de pouvoir. Il écarte de son chemin toute rivalité. Et pourtant, et ça peut se comprendre, il est dit dans le texte que nous avons lu que Hérode est troublé par cette histoire. Hérode, c'est certainement le personnage le plus intéressé, le plus curieux. D'ailleurs, il fait appel à l'un et l'autre, il fait venir les juifs, les scribes, les pharisiens, et il mène une véritable enquête pour savoir le lieu, le moment, il fait revenir l'image en secret. Hérode a vraiment envie de rencontrer l'enfant. mais ses intentions, elles sont macabres. Il veut se débarrasser d'un rival. Et on pourrait imaginer, je pense vraiment, que lorsqu'Hérode détient toutes ces informations, il aurait pu faire enfermer les mages et lui-même aller à la rencontre du petit enfant pour le faire mourir. Et je pense que là, Dieu met sa main et Hérode commet une erreur stratégique. Il laisse partir les mages qui ne reviendront pas par Jérusalem. Et on voit là que déjà, en étant bébé, Jésus-Christ a été pourchassé. Et tout au long de sa vie, plusieurs personnes, inutile de dire qui est derrière cela, mais tout au long de sa vie, Jésus-Christ a plus d'une fois été pourchassé pour être mis à mort. Et il fallait qu'il accomplisse parfaitement l'œuvre et que lorsqu'il meurt à la croix, il puisse dire « tout est accompli ». Les deuxièmes catégories de personnages que nous voyons ici, ce sont les Juifs. La région était remplie de personnes religieuses, et dans ces personnes religieuses, il y avait même une catégorie supérieure, que l'on appelait les pharisiens. Ils connaissaient la parole sur le bout des doigts. Ils connaissaient tellement bien la parole qu'ils étaient capables de reprendre n'importe qui à n'importe quel moment, du tac au tac. Et toi là-bas, toi, oui, toi, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit d'aider ton frère, ta sœur le jour du Seigneur. T'as pas le droit de faire la vaisselle le jour du Seigneur. Il y en a qui se disent cet après-midi. T'as pas le droit de manger du jambon. T'as pas le droit de manger un dagobert. T'as pas le droit de faire ceci. T'as pas le droit de faire cela. Ils connaissaient tout sur le bout des doigts. Regarde-moi, moi, je connais la loi. Je vais au temple tous les jours. Je jeûne plusieurs fois par an. Je fais de belles prières, je fais de belles offrandes. Ils avaient la connaissance. Et comme Salvatore nous l'a rappelé ce matin, au travers de cette belle illustration, c'est une connaissance qu'ils portaient autour du cou. Et dont ils se glorifiaient. Et l'apôtre Paul parlera plus tard d'une connaissance stérile, une connaissance qui enfle l'orgueil. Pourtant, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit eux les premiers à visiter Jésus. Et ce n'est pas le cas. Dieu en décide autrement. Nous arrivons justement à nos personnages de l'histoire, les mages, de troisième catégorie, qui va rencontrer, qui va s'approcher en premier du Seigneur. Et pourtant, rien ne les prédestiné à ce qu'il en soit ainsi. Ils habitent loin, ils viennent d'un peuple lointain, idolâtre. Alors, quand on parle de mages, on parle en fait de savants. Et ils avaient toutes sortes de connaissances qu'on leur avait enseignées depuis leur plus jeune âge, des connaissances scientifiques, dont des connaissances astronomiques. Ils connaissaient la cartographie du ciel par cœur. Ils étaient capables d'observer le mouvement des étoiles. Et dès qu'il y avait une anomalie, ils avaient l'attention attirée. Ils avaient également toutes sortes de connaissances littéraires et prophétiques de différentes orientations. Et ils attendaient en fait une étoile qui annonce la naissance d'un roi en Judée. Et ce qui est bizarre, c'est que on ne retrouve aucune prophétie dans la Bible qui parle de cette étoile. Sauf peut-être une. Mais c'est un drôle de prophète qui en parle. On ne va pas lire le texte, mais je vais vous raconter en quelques mots. C'est un très drôle de prophète parce que on se demande dans quel camp il est. C'est dans Nombre du chapitre 22 au 24, si vous voulez le relire chez vous. Lorsque le peuple rentre en possession de la terre promise et qu'il combat sur ordre de l'Éternel les peuples idolâtres qui occupent le territoire, Israël remporte des victoires. Et à un certain moment, le roi de Moab voit ça, il voit que Israël arrive vers lui et il prend peur. Et il fait appel à un certain Balaam, qui est prophète dans son pays. Et il fait appel à lui pour maudire Israël. Balaam hésite à un certain moment parce qu'il se rend bien compte que ce peuple est le peuple de Dieu, mais il finit par accepter la mission macabre de Balak, le roi de Moab. Et il se rend vers ce roi pour maudire Israël. Mais là, Dieu intervient. Dieu place son esprit sur Balaam. Et plutôt que de maudire Israël, Balaam va le bénir. Balak est furieux de ça, et Balaam, toujours sous saisi de l'esprit de Dieu, va prophétiser. Il va prophétiser une étoile qui annoncera plus tard la venue d'un roi, la venue d'un souverain. Alors rien ne dit, je m'empresse de dire, que rien ne dit que c'est sur base de cette prophétie que les mages attendaient cette venue. Mais tout est probable parce que Balaam, il annonce ça à un peuple étranger, à un peuple qui se trouve à l'Orient. Et probablement que cette prophétie de Balaam s'est répétée dans la tradition de ce peuple de l'Orient. Ce qui est important, c'est de souligner que même si les mages avaient une petite connaissance de ce qui allait arriver, eux, ils l'avaient assimilé, ils l'avaient pris pour eux. Pourquoi eux et pas les Juifs? Parce que le cœur de ces mages était disposé à rencontrer. Ils étaient vraiment à la recherche de Dieu, une recherche sincère, véritable. Et comme il est dit dans Jérémie, chapitre 29, versets 13 et 14, Dieu se laisse trouver par ceux qui sont dans une telle attitude de cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous. Les mages sont à la recherche et ils viennent humblement à la crèche. Avec quelle intention? L'intention, on l'a vu, d'adorer le Seigneur. Ils ne viennent pas par curiosité, ils ne viennent pas avec des intentions égoïstes, comme Hérode avait l'intention de le faire, donc ils viennent humblement, et ils viennent pour adorer le Seigneur. Et ils ne viennent pas les mains vides. Il y a trois cadeaux qu'ils transportent avec eux, l'or, l'encens, la myrrhe. Et certains commentaires accordent une valeur symbolique à ces cadeaux, et j'ai cru intéressant de vous les partager. Alors premièrement, l'or. Alors que symbolise l'or? La royauté. Quelqu'un veut dire? La pureté. Alors ça, justement, peut-être qu'aujourd'hui, l'or symbolise avant tout la richesse. Hein, quand on pense à l'or aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec le cours de l'or qui augmente, on pense surtout à sa valeur monétaire. Et l'autre jour, j'étais dans un centre commercial et je me suis fait attraper par quelqu'un qui m'a tendu un billet de 50 euros. Oui, merci. Bon, c'était un faux, mais c'était une invitation à me présenter à un stand un peu plus loin pour aller me faire évaluer sur base de l'or que je portais actuellement, le revendre. Bon, je n'avais que mon alliance, donc je n'ai pas été. Vous imaginez la scène en rentrant à la maison. Chérie, j'ai fait une bonne affaire, mais mon alliance, c'était... Non, donc je n'y ai pas été, mais donc pour dire qu'aujourd'hui, l'or c'est symbolise avant tout la richesse. Mais comme certains l'ont dit, à cette époque-là, à l'époque de Jésus, l'or symbolisait avant tout la royauté, ce qui est divin. L'or est un métal qui est quasi inaltérable, donc il représentait l'éternité, puis par sa couleur jaune éclatante, il représentait aussi l'éclat du soleil. Et donc, vraiment à l'époque, l'or était utilisé pour souligner la royauté, pour souligner la divinité. Et en offrant de l'or à Jésus, ben, on peut imaginer que ces mages reconnaissent ce roi, reconnaissent en lui le Fils de Dieu, reconnaissent sa divinité. Puis il y a l'encens. Alors l'encens, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, du brûle parfum, hein, on pense à ces bougies odorants que l'on fait brûler dans les maisons. Et dans l'Ancien Testament, l'encens c'était quoi? La prière, l'adoration. Et l'encens était toujours associé à ces sacrifices, à ces offrandes qui étaient répétées régulièrement devant l'Éternel, en signe aussi d'implorer son pardon, de lui demander pardon. Et là aussi, on peut y voir une image, un symbole de l'attitude de ces mages qui se présentent devant Jésus. Ils reconnaissent quelque part qu'ils ont besoin de pardon. Et ils font monter vers Dieu un encens, des prières, et puis la myrrhe. Alors la myrrhe, tout au long de la Bible, on en retrouve plusieurs utilisations, plusieurs symboles, mais du temps de Jésus, la myrrhe, c'était pour embaumer, oui, pour embaumer. Et même aussi, donc c'est un antiseptique, mais ça servait aussi d'antidouleur. Et d'ailleurs, lorsque on voit les soldats qui sont prêts à crucifier Jésus, il y en a un qui lui présente un mélange de vin et de myrrhe. Est-ce pour atténuer les douleurs? Peut-on croire qu'on puisse atténuer les douleurs d'une crucifixion? Mais Jésus refuse ce mélange. Parce que Jésus sait qu'il doit accomplir cette œuvre. Et puis il y a cette myrrhe qui est utilisée pour embaumer le corps de Jésus juste avant de le mettre au tombeau. Et donc, dans ce troisième symbole, eh bien, on voit clairement la crucifixion et la mort de Jésus. Trois cadeaux, trois symboles. L'or, où les mages reconnaissent la divinité, la royauté de Jésus. L'encens, où ils reconnaissent leur besoin d'être pardonnés, où ils en appellent à la clémence de Dieu. Et la myrrhe, qui en annonce presque la mort, la crucifixion et la mort de Jésus pour le salut du monde. Et après avoir adoré, après avoir remis leurs cadeaux, les mages retournent dans leur pays, sans repasser par Jérusalem, puisqu'ils sont visiblement avertis. Alors l'histoire ne nous dit pas ce qu'ils ont été racontés chez eux, au pays, mais ils sont certainement le premier maillon de ce salut que Dieu adresse au monde. Un salut qui était déjà annoncé depuis longtemps, et notamment juste un verset dans Ésaïe 49, au verset 5 et 6. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, et au verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ce salut est accordé à toute la terre. Je pense que les mages en sont peut-être le premier maillon. Et que les mages, en rentrant au pays, ont ouvert un premier chemin vers ce salut. C'est d'ailleurs confirmé par Jésus lui-même, tout au long de son ministère, hein, lorsque Jésus va vers la Samaritaine, lorsqu'il va vers des païens, on lui reproche d'ailleurs d'aller vers des païens, lorsqu'il dit, et ça a été rappelé tout à l'heure, faites de toutes les nations des disciples, tout ça est confirmé. Et puis c'est finalement l'apôtre Paul qui à un certain moment dira clairement, et là un peu plus clair, en acte 13 et au verset 47, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'était au verset 46, pardon. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici que nous tournons vers les païens. Et donc voilà, depuis les mages jusqu'à l'apôtre Paul, ce salut qui est en train de s'ouvrir, et nous en sommes quelque part bénéficiaires ce matin, nous pouvons dire vraiment merci à Dieu d'avoir en Jésus accorder son salut à toutes les nations, nous en sommes les bénéficiaires. Alors juste un texte pour conclure, en Matthieu chapitre 7 et au verset 21-23. Alors si cette histoire des mages nous surprend quelque part parce qu'elle nous montre que ce ne sont pas les personnes à qui on pouvait s'attendre qui vont rencontrer en premier le Seigneur, cette histoire n'a pas fini de nous surprendre. Et nous allons conclure par deux nouvelles. Hein. Généralement, quand on parle de deux nouvelles, il y en a une bonne et il y en a une mauvaise. Généralement, on commence par la mauvaise, comme ça, la bonne adoucit. Matthieu, chapitre 7, versets 21-23, la mauvaise nouvelle. Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, entrera dans le royaume. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, celui-là entrera. Et puis là, la bonne nouvelle, nous la retrouvons dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Un évangile qui nous présente justement Jésus qui vient sur terre comme la lumière dans les ténèbres. Ça nous rappelle cette histoire des mages. Jésus vient comme une lumière dans les ténèbres. Et la bonne nouvelle, nous la trouvons au verset 11. Par quel verset 11? Cette lumière est venue chez les siens. Jésus est né en Israël. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, juste un petit mot pour revenir à la première question, la deuxième question que je vous posais tout à l'heure, qui a mangé de la galette. Ce qui est frustrant quand on mange de la galette, c'est qu'il n'y a qu'une seule fève. Et il n'y a qu'une seule couronne. Par contre, dans ce texte, ce que nous pouvons découvrir en ce qui concerne le pain de vie, Jésus-Christ, il y a de la place pour tous ceux qui l'acceptent, qui le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur et qui lui obéissent. Amen.
Amen.